La Bible en 24 heures, encore une fois, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est simplement une série de 24 études d'une heure sur toute la Bible. Et on arrive ce soir à la fin. On va survoler l'Apocalypse, les chapitres 4 à 22. Et la semaine prochaine, Dieu voulant, on fera une conclusion en revenant sur toute la Bible en une heure. C'est ambitieux, c'est surtout difficile à faire de façon fidèle, bien sûr, mais c'est important aussi d'avoir une vue d'ensemble de toute la parole de Dieu. L'Apocalypse, on a commencé la semaine dernière, on a vu les chapitres 1 à 3. Et avant de commencer la suite, on va demander au Seigneur de nous aider. Prions ensemble. Oui Seigneur, merci pour ce que tu fais dans le monde, ce que tu fais dans les cœurs. Merci pour ce témoignage, comment tu as touché le cœur de Jacques. Avant qu'il ne te connaisse, Seigneur, tu lui parlais déjà et tu lui as permis de te rencontrer. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité, qui nous permet de te connaître, Seigneur. Aide-nous à la connaître, à la comprendre, surtout à la mettre en pratique. Seigneur, aide-nous dans cette tâche un peu ambitieuse de survoler l'Apocalypse et toute la Bible aussi vite, Seigneur, que tu puisses parler aux uns et aux autres, Seigneur, et nous toucher. Je te remercie d'avoir protégé ta parole pendant tous ces siècles, qu'elle soit disponible, Seigneur, que nous puissions l'étudier en toute liberté. Seigneur, apprends-nous à apprécier cette liberté et faire tous nos efforts pour être dans ta parole journellement, Seigneur. Amen. Amen. La semaine dernière, on a donc commencé l'Apocalypse. L'Apocalypse, ça veut dire le dévoilement ou la révélation de Jésus-Christ. Et c'est l'apôtre Jean qui, déporté sur l'île de Patmos, a cette vision. Cette vision d'abord du Seigneur Jésus, qui lui donne des lettres pour cette église. Et on a vu que ces sept églises, elles représentaient non seulement des églises locales de l'époque, mais aussi elles étaient représentatives de l'histoire de l'église avec un grand E. On a vu l'église de Éphèse, c'est l'église du premier amour, ça correspond à l'église des apôtres jusqu'à leur mort. L'église de Smyrne, c'est l'église de la souffrance, c'est l'église des Romains qui se réfugiaient dans les catacombes pour la persécution. Pergame, c'est l'église du compromis ou du mélange. C'est le mariage mixte, Pergame. Ça, c'est lorsque l'empereur Constantin a fait de l'église de la foi chrétienne la religion d'État romaine. Il y a eu ensuite l'église de Thyatire. Le sacrifice perpétuel, c'était l'église de la tradition, ça correspond à la chrétienté catholique au Moyen-Âge. Sardes, c'est l'église du reste, ça correspond aux églises issues de la réforme qui a commencé avec Luther, Calvin, Mélenchon, Knox et tous les autres. L'église de Philadelphie, c'est une église qui n'a pas de critique de la part du Seigneur dans la lettre. Ça, c'est l'église qui est fidèle. C'est l'église, on pense, c'est l'église évangélique du 19e siècle qui a contribué au mouvement de mission dans le monde. L'église de Laodicée, enfin, ça, c'est l'église de ceux qui se font des illusions. Et ça correspond aux églises de notre époque qui se croient riches mais qui en fait sont pauvres et qui doivent se repentir. tous ces défauts dont il est question dans cette lettre, en fait, c'est aussi l'échantillon complet des problèmes qui peuvent menacer toute église locale. Ça peut être s'éloigner de son premier amour, être tellement occupé à œuvrer pour le Seigneur qu'on oublie le Seigneur. Ça peut être l'orgueil, ça peut être la fausse doctrine. Et donc, on a vu aussi que ces lettres étaient basées sur une structure du nombre 7, avec 7 éléments dans chaque lettre, et toujours cette répétition à la fin, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. On a vu aussi que souvent, les gens ont peur d'étudier l'Apocalypse parce qu'ils disent c'est trop bizarre, c'est symbolique, on n'y comprend rien, on peut faire dire n'importe quoi. En fait, c'est vrai, si on n'a pas l'habitude de prendre la Bible à la lettre et de symboliser les choses à outrance, on peut se perdre très facilement. Heureusement pour nous, dans le texte même, il y a le plan de la lettre. Au verset 19 du chapitre 1, il est dit « Écris donc, c'est Jésus qui parle à Jean, écris donc ce que tu as vu, ça c'est la vision de Jésus lui-même, ce qui est, ça c'est les églises locales et les 7 lettres, et ce qui va se produire ensuite. » Après avoir fini ces 7 lettres, l'apôtre Jean, au verset 1 du chapitre 4, nous dit « Après cela », et c'est exactement la même expression en grec qu'au verset 19, « Après cela, ce qui va se produire ensuite, je regardais, et voici une porte ouverte dans le ciel. » Je vous encourage, oui, à prendre une Bible pour pouvoir suivre. On va regarder pas mal de textes. Donc, verset 1, « Après cela, je regardais, et voici une porte ouverte dans le ciel, telle une trompette, la première voix que j'avais entendue me parler, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » C'est la même expression, « Après ces choses. » Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici qu'il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel qui avait l'aspect de l'émeraude. Autour du trône il y avait 24 trônes, et sur ces trônes 24 anciens assis, vêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlaient 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, c'est comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et tout autour du trône, 4 êtres vivants remplis de Dieu devant et derrière. Ces êtres vivants ne cessent de dire, verset 8, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Et quand les êtres vivants rendent gloire, honneur, action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosterneront devant celui qui est assis sur le trône. Ils adoreront celui qui vit au siècle des siècles, ils jetteront leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. » Chapitre 4 nous parle donc du trône divin dans le ciel, le trône de l'univers. Et c'est une vision fantastique. Encore une fois, l'apôtre est réduit à utiliser des expressions, des termes pour raconter quelque chose qui est difficile à raconter. Et vous avez peut-être fait l'expérience, lorsque vous voulez décrire quelque chose de beau à quelqu'un d'autre, un coucher de soleil, on arrive rapidement à la fin des mots pour essayer de faire comprendre à la personne la beauté qu'on a reçue, les sensations d'émerveillement qu'on a pu ressentir. Et là aussi, il parle de pierres précieuses, c'était quelque chose de rare, de beau, mais on est vraiment devant un spectacle de toute beauté. Et on voit des personnages, donc il y a le Père qui est assis sur le trône, le Fils qui est assis à côté, il y a les 24 anciens. Alors souvent l'identité, encore une fois, pour ceux qui arrivent ici peut-être pour la première fois, en principe pour lire l'Apocalypse il faut avoir déjà lu toute la Bible et pouvoir faire des références, parce que sur les 400 et quelques versets qu'il y a dans l'Apocalypse, il y en a 285 qui sont des références à l'Ancien Testament notamment. Et là, les 24 anciens, certains pensent que 24, c'est 12 plus 12, alors ce serait peut-être les 12 apôtres plus les 12 tribus, un représentant des 12 ou des 12 patriarches, les fils de Jacob. Mais en fait, l'identité, elle nous est dit que plus loin, on voit que ce sont des rachetés, ce sont des rois et des prêtres. Ce ne sont pas des anges non plus. On verra plus loin qu'il y a des passages qui nous disent qu'il y avait les anges et les anciens, les 24 anciens. Le seul endroit dans la Bible où il est question du nombre 24, c'est lorsque David établit la prêtrise du Lévitique, des Lévites plutôt, en 24 classes. Et ça fait vraiment référence au fait que ces personnes représentent l'ensemble des rachetés. Les rachetés, c'est-à-dire ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et maître et qui ont été rachetés de leur situation de pécheur. On voit les quatre créatures dont il est question aussi dans Ésaïe, dans Ézéchiel, avec une face d'homme, verset 7, une face de lion, un visage de lion, un visage de veau ou de bœuf, dans d'autres passages, un visage d'homme, et un autre qui est semblable à un aigle. Et quand on étudie ces différents passages, on voit le lion, ça nous fait penser bien sûr à Jésus qui est le lion de la tribu de Judas, mais aussi aux quatre évangiles, l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. L'évangile de Matthieu, c'est l'évangile du roi. C'est un évangile adressé au peuple juif pour leur montrer que Jésus est vraiment le Messie et le roi qu'ils attendent. Et le roi, bien sûr, est symbolisé par le lion. L'évangile de Marc, c'est le serviteur. Jésus, le verset clé, c'est « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon. » C'est le serviteur, c'est un peu comme le veau ou le bœuf qui travaille pour l'homme. Luc, c'est un thème dans Luc, c'est le fils de l'homme. Jésus est présenté comme le fils de l'homme. Donc Luc, son évangile est caractérisé par le visage d'homme. Et finalement, Jean, c'est l'évangile qui montre la divinité de Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, et ça c'est l'aigle qui représentait aussi le divin. Les chapitres, au passage, il est dit que Jésus a créé toutes choses, c'est par sa volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. En fait, c'est très important de réaliser que Dieu nous a créés pour son bon plaisir. C'est pas nous qui avons évolué, qui décidons si Dieu est ceci ou cela, non, c'est Dieu qui dans sa souveraineté, son mystère, a décidé de créer des êtres avec qui il pouvait communiquer et partager. Chapitre 5, il est question du livre scellé de sept sceaux. Alors on va voir que dans ces chapitres 4 à 22, il va être question encore toujours cette structure du nombre basée sur le nombre 7. On va voir les jugements qui tombent sur la terre. C'est Dieu qui envoie ses jugements. Il va y avoir des sceaux. Ensuite, il va y avoir des trompettes, sept trompettes, et puis sept coupes d'or. Et à chaque fois qu'on verra ces éléments ouverts dans les cieux, il va se produire des catastrophes sur la terre. Oui. Certainement, il y a de diversion ou de grâce. C'est un peu comme si Dieu ralentit ses jugements et il donne encore une chance aux hommes de venir à lui. Les sept sceaux, ce livre, ça correspond, on voit qu'il est au chapitre 1 du verset 5, il est dit qu'il est écrit en dedans et en dehors et qu'il est scellé de sept sceaux, et ça correspond à ce qu'on appelait un titre de propriété à l'époque hébraïque. On n'allait pas chez le notaire, mais chez l'équivalent, on écrivait, on décrivait la propriété qui était confiée à quelqu'un, et aussi la façon dont on pouvait racheter la propriété. Et le rachat était indiqué à l'extérieur du rouleau. Et à l'intérieur du rouleau, il y avait la description de la propriété, de ses caractéristiques. Et ce titre de propriété, on voit qu'il y a un ange qui dit « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Et c'est là qu'en fait, c'est Jésus, l'agneau, verset 8, à qui les anges vont dire « Tu es digne de recevoir les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, ils régneront sur la terre. » La terre, à qui appartient-elle? La terre, bien sûr, c'est Dieu qui l'a créée. Dieu l'a confiée à l'homme, à la création, lorsqu'il lui a dit « Voici la terre, prends-en soin, multiplie-toi, prends-en possession. » Mais on sait que lorsque l'homme a obéi à Satan dans la désobéissance, il a aussi, quelque part, cédé la possession de la terre à Satan. Et si aujourd'hui les choses vont si mal, c'est pas parce que Dieu est un méchant Dieu, mais c'est parce que pour l'instant c'est Satan qui est le maître de ce monde. Alors on peut dire, mais c'est bizarre parce que quand même Jésus a battu Satan à la croix, et c'est vrai que la victoire appartient au Seigneur, mais que si on regarde bien en fait, Satan mène un combat d'arrière-garde, un peu comme dans certains conflits. Le conflit a été remporté, la paix a été signée, mais il y a des gens qui sont encore dans leur coin en train de combattre. Ça s'est passé par exemple avec les Japonais, qui après que les États-Unis et le Japon aient signé un traité de paix, après la capitulation, il y avait encore des Japonais qui tiraient sur tout ce qui bougeait dans leurs îles, parce qu'ils pensaient que c'était toujours la guerre. Et là, en fait, Satan usurpe le droit de faire peur, usurpe le droit de contrôler encore ce qui se passe sur la terre. Alors, je ne dirais pas ça si je n'avais pas le soutien d'un verset notamment. Verset 8 du chapitre 2 de la lettre aux Hébreux. Ça, c'est un verset clé pour que vous puissiez comprendre pourquoi il y a de la misère dans le monde, pourquoi il y a des malheurs, pourquoi il y a des souffrances, il y a de l'injustice, de la corruption, des guerres injustes. Les gens vous demandent, mais s'il y a un Dieu, pourquoi ces choses arrivent? Et en fait, ce verset nous explique que Tu as mis toutes choses sous ses pieds, il parle du Fils de l'homme, en lui soumettant ainsi toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui reste insoumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges, Jésus, nous le contemplons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour nous. Il convenait en effet à celui par qui et pour qui tout existe, qui a conduit beaucoup de fils à la gloire, d'élever à la perfection par la souffrance l'auteur de leur salut. Tout a été soumis, tout est sous ses pieds, mais on voit que toutes choses ne lui sont pas encore soumises. Et c'est justement l'Apocalypse, c'est le retour de Christ, où tout va être soumis à Christ. Donc, ce titre de propriété, lorsque l'homme a péché, il l'a cédé en fait à Satan. Et il va falloir que Jésus reprenne ce titre de propriété, et lui est capable. Il y avait dans l'Ancien Testament, il y avait le principe du rachat. On pouvait racheter quelqu'un qui avait été vendu comme esclave, on pouvait racheter une propriété, une maison, un terrain, un champ, on pouvait même racheter une postérité à un frère qui était décédé. Si un frère mourait sans avoir d'enfant, son frère pouvait avoir des enfants avec sa femme pour lui donner, pour racheter une postérité à son frère. Ces trois types de rachat, en fait, il fallait que la personne qui rachète remplisse trois conditions. Il fallait d'abord qu'elle ait les moyens de racheter. Il fallait que ce soit aussi un... On connaît l'histoire du livre de Ruth, où justement Boaz est celui qui rachète Naomi, et Ruth plutôt, qui est la belle-fille de Naomi. Et là, on voit un exemple de ce proche parent qui rachète, qui a les moyens, qui le veut et qui troisième point, proche parent, le Goël. Voilà. Bien sûr, ça c'est Jésus. Jésus, c'est un parent. Nous sommes ses frères. Il a les moyens de racheter. Et il le veut bien. C'est ce qu'il a fait sur la croix. Et donc là, il a le droit d'ouvrir et de reprendre le titre de possession de la terre. Verset 6, on va voir maintenant l'ouverture des sceaux. À chaque fois que Jésus ouvre un des sceaux, donc les sceaux, c'est des tampons de cire sur le document. Chaque fois qu'il ouvre un de ces sceaux, il se passe quelque chose sur la terre. Le premier sceau, on voit un cheval blanc. Donc il se passe quelque chose, ça pourrait être très bien fait en film. On pourrait avoir la scène qui se passe dans les cieux. Et sur terre, qu'est-ce qui se passe? Premier sceau, on voit un cheval blanc. Et celui qui le monte tient un arc, sa couronne lui est donnée, il partit en vainqueur pour vaincre. Et on dit, ah voilà, ça doit être Jésus. Non, en fait, quand on voit la compagnie qui est avec lui, on sait que ce n'est pas Jésus, c'est quelqu'un qui se fait passer pour Jésus. Quand il ouvrit le second sceau, c'est maintenant le cheval rouge feu. Donc le premier, le cheval blanc, ça représente la tromperie, la déception, en anglais, la deception, la tromperie, l'hypocrisie, c'est la fausse, le faux Christ, c'est l'antéchrist. Le deuxième sceau, c'est le cheval rouge. Le rouge, c'est bien sûr la guerre, le sang. Et là aussi, il se passe des choses terribles. Des hommes s'égorgent, une grande épée lui est donnée. Troisième sceau, c'est un cheval noir. Le cheval noir, il est expliqué un peu plus bas, que ça fait penser à la famine. Il y a une période de famine sur la terre qui vient du fait qu'il y a des gens qui vendent les marchandises pour plus cher. C'est le marché noir. Le quatrième sceau, c'est un cheval d'une couleur verdâtre. C'est en fait celui qui représente la mort et les maladies, le séjour des morts. Il fait périr les hommes par l'épée, la famine, la peste et les bêtes sauvages de la terre, verset 8. Quand il y a le cinquième sceau, il y a des âmes de ceux qui ont été égorgés à cause du témoignage rendu. Ça, on pense que c'est la période donc de la grande tribulation a commencé, et ça, ce sont des gens qui sont massacrés pour leur foi pendant la grande tribulation. Le sixième sceau, on voit un grand tremblement de terre, verset 12. Le soleil qui devient noir comme un sac de crin, la lune entière devient comme du sang, les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Le ciel se retira tel un livre qu'on roule et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place. Des choses terribles qui se passent, c'est vraiment ce qu'on appelle des fois la fin du monde, de façon pas tout à fait exacte. Et les gens, devant ces terribles cataclysmes, au lieu de demander pardon à Dieu et d'aller vers lui, ils veulent se cacher dans les montagnes, verset 16, ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous loin de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau, car le grand jour de leur colère est venu et qui pourrait subsister. Ça c'est le sixième sceau, et avant le septième sceau, maintenant il va se faire un grand silence, verset 7. Et là on va voir un groupe de 144 000 personnes. Il est dit de ne pas faire de mal à ceux qui sont marqués du sceau, le front, les serviteurs de Dieu qui sont marqués du sceau. 144 000. Alors là, les sectes, comme les témoins de Jéhovah, disent que c'est eux, les 144 000. Ça allait bien jusqu'à ce qu'ils n'en aient que 144 000. Quand ils sont passés au-dessus, ils ont dû faire une explication. Alors ils disent que ça, c'est ceux qui seront les mieux traités. Puis il y en aura d'autres qui seront aussi sauvés de cette façon, mais ce ne sera plus les 144 000. En fait, rien ne nous permet de dire que ce n'est pas des Juifs. Il est dit 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Et là, on liste les tribus. La tribu de Juda, 12 000. La tribu de Ruben, 12 000, Gad, 12 000, Aser, 12 000, Nephtali, 12 000, Manassé, etc. 12 000 exactement dans 12 tribus. Donc la prochaine fois que les témoins de Jéhovah vous disent qu'ils sont des 144 000, dites-leur bonjour et demandez-leur de quelle tribu ils sont. Puisque là, les 144 000, ils doivent être de l'une de ces tribus. Alors on s'aperçoit, si on regarde attentivement, que la tribu de Dan n'est pas mentionnée. Et les tribus, c'est un peu l'histoire de 13 à la douzaine. Parce qu'il y avait bien 12 patriarches. Ça, on le lit dans la Genèse 35, 34, la fin. Il y avait les fils de Jacob, avec 4 femmes, 2 femmes et 2 concubines, 2 de leurs servantes. Il y avait bien 12 fils, mais Joseph a eu 2 enfants, Éphraïm et Manassé, qui eux aussi ont été bénis par Jacob et font partie des tribus d'Israël. Donc suivant les cas, on ne va pas mentionner par exemple la tribu de Lévi. Lévi, c'était les prêtres, donc quand il y avait des questions de militaires, ils n'étaient pas dans les processions, dans les troupes. Il y a des moments où on parle de Joseph et de Manassé, par exemple ici, la tribu de Joseph et de Manassé, en fait, ça veut dire, s'il y a déjà Manassé, la tribu de Joseph, ça veut dire la tribu d'Éphraïm. Et suivant les passages, il y a une vingtaine de passages dans la Bible où il y a des listes, des tribus, et la plupart du temps, on en a 12, mais c'est intéressant de voir quelle est celle qui est mentionnée ou celle qui n'est pas mentionnée. Celle de Dan n'est pas mentionnée ici. On pense que c'est peut-être parce que c'était par eux que l'idolâtrie était arrivée dans la terre d'Israël, dans la terre promise. Mais on sait par Ézéchiel que c'est une des premières tribus à qui Dieu va donner du terrain, du territoire, dans le royaume. Donc ils ne sont pas complètement rejetés. Mais c'est toujours intéressant de faire le point sur les 12 tribus tirées des 13. Et eux vont faire un grand témoignage qui va amener beaucoup de monde à Jésus. C'est le verset 14. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, donc ce sont des saints, des personnes qui se sont converties pendant la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Le septième sceau, c'est là qu'il y a un silence d'environ une demi-heure. Et là, ça correspond maintenant, ça va déclencher, la dernière jugement des sceaux va déclencher les trompettes. Les 6 premières trompettes, nous allons les voir maintenant. Le premier verset 7 du chapitre 8, le premier sonna de la trompette, il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang, et la terre fut consumée, le tiers des arbres furent consumés. On n'a pas à regarder en détail, mais dans les premiers jugements des sceaux, il y avait des parties de la terre qui étaient détruites, etc. Ici, le tiers des arbres, toute l'herbe verte est consumée. Le deuxième ange sonne de la trompette, verset 8. Le tiers de la mer devint du sang, le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient le souffle de vie périt. Le troisième trompette, c'est une grande étoile qui brûle comme un flambeau et qui tombe sur le tiers des fleuves. La quatrième trompette, c'est le soleil qui est obscurci. Il y a même un aigle qui indique « Malheur, malheur, verset 13, aux habitants de la terre, car à cause des autres sons de trompette, les trois anges... » Ça va être encore pire, si ça a été mauvais jusqu'à présent. ça va être encore pire. Alors on voit le cinquième ange, là ça déclenche la montée du puits de l'abîme, de sauterelles, entre guillemets, de grandes bêtes, qui viennent, des créatures démoniaques, qui viennent combattre les hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Verset 4. Verset 6, il dit que les hommes, la souffrance est si terrible que les hommes cherchent la mort, mais ils n'arrivent pas à la trouver. Les sauterelles ressemblent à des chevaux équipés pour le combat. Sixième ange sonne de la trompette, et là il est question du grand fleuve Euphrate, qui était la limite de l'Empire romain à l'époque, et dont il est question aussi dans le sixième sceau. Il est aussi question de l'Euphrate. On verra que dans les coupes d'or, il en est question aussi. Ça, c'était vraiment la limite avec les pays d'Asie. C'est 200 millions d'hommes, pardon, verset 16. Le tiers des hommes est tué par les trois fléaux, la fumée, le soufre, le feu. Et malgré ces souffrances, verset 21, on voit que les hommes ne se repentent toujours pas de leur meurtre, de leur sortilège, ni de leur inconduite, ni de leur vol. Verset 10, on retrouve un petit livre. Certains pensent que c'est le même, je crois que c'est le même. D'autres pensent que c'est peut-être un autre livre. Là, à un moment donné, il y a sept coups de... D'abord, on va lire le verset 1. « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel vêtu d'une nuée. Sur sa tête était l'arc-en-ciel, son visage était comme le soleil et ses jambes comme des colonnes de feu. Il tenait à la main un petit livre ouvert. Il posa le pied droit sur la mer et le gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. À son cri, les sept tonnerres firent entendre leur voix. » Là, c'est Christ lui-même qui reprend possession de la terre avec ce petit livre à la main. Il y a des coups de tonnerre, mais quand les sept tonnerres, verset 4, eurent parlé, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix dire, ferme d'un sceau ce qu'ont dit les sept tonnerres et ne l'écris pas. Donc l'apôtre Jean a eu une vision, a eu une révélation que Dieu lui a demandé de ne pas écrire. Vers l'ange, sonne le petit livre et lui dit de l'avaler. Il remplira d'amertume, verset 9, tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus mangé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Ça rappelle aussi Jérémie 15 qui disait que j'ai trouvé tes paroles et j'ai avalé tes paroles et elles sont devenues la joie de mon cœur. Là, ces paroles lui laissent un goût d'amertume. Et là, on lui demande de prophétiser. Et verset 11, maintenant, on va parler de Jérusalem, la ville sainte, et des deux témoins. Chaque fois qu'il est question d'une baguette ou d'un roseau dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est une question de mesure. On me donna un roseau semblable à une baguette, c'est pour évaluer, pour apprécier. Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent là. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront au pied de la ville sainte pendant 42 mois. 42 mois, c'est 3 ans et demi, c'est 1260 jours, c'est la moitié des 7 ans de la grande tribulation. Il y a deux témoins qui vont prophétiser, deux oliviers et deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur nuire, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut leur nuire, verset 5, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Verset 6, ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie pendant les jours de leur prophétie, et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le veulent. Alors la question a fait couler beaucoup d'encre. Qui sont ces deux témoins? Quand on voit les miracles qu'il faisait là, ça nous fait penser bien sûr à deux personnages bien connus. Moïse, qui avait le pouvoir de changer les eaux en sang par le pouvoir de Dieu, mais ça c'est les plaies d'Égypte, toute espèce de plaie. Et celui qui avait prié pour qu'il ne pleuve pas, c'était qui? C'était Élie. Voilà, c'était elle. Non, c'était lui. Et ce qui est intéressant, c'est que plusieurs fois dans la Bible, on nous rappelle Élie et Moïse. J'aime bien ce que dit Chuck Missler. En fait, ils ont préparé ça avec Jésus lors du mont de la Transfiguration. Lorsque Élie et Moïse se sont retrouvés avec Jésus et que Pierre voulait bâtir un autel pour tous les trois et que la voix lui a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Pour lui dire qu'ils n'étaient pas au même niveau. Mais selon toute vraisemblance, il s'agit d'Élie et Moïse qui sont les témoins, qui sont tués par la bête qui monte de l'abîme, verset 7. Et leurs cadavres resteront sur la place de la grande ville. Ça, c'est Jérusalem et B.C. Et en fait, au bout de 3 jours, ils vont revenir à la vie. Un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, ils se tinrent sur leurs pieds, une grande crainte fonda sur ceux qui les voyaient. Ils entendirent du ciel une voix forte qui leur dit « Montez ici ». Ils montèrent du ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. Il y eut un grand tremblement de terre et la 10e partie de la ville s'écroula. 7 000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Le second malheur est passé, voici le troisième vient bientôt. C'est la 7e trompette maintenant. Et là, il est encore question des 24 anciens au verset 16 qui disent « Nous te rendons grâce ». Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Un grand signe apparut dans le ciel, verset 12, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, et voici un grand dragon rouge feu qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint debout devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils, un mâle, qui doit faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Ça, c'est le psaume 2, verset 9. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit au désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours, 3 ans et demi, 35 semaines. 1260 jours, 3 ans et demi, la moitié des 7 ans. Qui est cette femme? Alors, certains disent, ah ben c'est la... avec un enfant, ça peut être que la Vierge avec l'enfant Jésus, mais non, c'est pas... C'est bien l'enfant, c'est bien Jésus. Il enfantera un fils qui frappait toutes les nations avec un sceptre de fer. Ça se recoupe avec le psaume 2 et d'autres passages. Mais la femme... Il y a des indices qui nous révèlent qui c'est. Si on se rappelle du songe oui, c'était Joseph qui avait fait ce songe de la lune et les étoiles qui s'inclinaient devant lui, devant le soleil. C'était Israël. C'est le peuple juif, c'était la nation d'Israël qui devait amener le Messie. Et on sait que depuis la Genèse, le Messie est combattu par Satan. Et pour combattre le Messie, Satan, il était question, verset 9, son identité est précisée. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Donc c'est bien lui qui s'agit. Il s'est attaqué au peuple juif pour éviter que n'arrive le Messie. Vous vous souvenez le livre d'Esther où c'est Aman qui a un complot pour détruire tous les Juifs. Il y a plusieurs passages dans la Bible où Satan essaye d'anéantir le peuple juif pour éviter l'arrivée de Jésus-Christ. Et même après son arrivée, pour son retour, le Satan est toujours opposé... au peuple juif, on y reviendra. Et verset 10, on l'avait déjà cité à propos du témoignage. « Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Verset 13, chapitre 13 et 14, on va avoir plusieurs personnages arriver. Sept personnages. Verset 1 du chapitre 13, « Je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. » Ça nous rappelle Daniel 7, et il s'agit de l'antéchrist, celui qui veut se faire adorer à la place de Christ. Il lui est donné une gueule qui profère, verset 5, qui profère des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Il lui fit donner de la faire la guerre aux saints et de les vaincre. Les saints, ce n'est pas l'Église qui a déjà été enlevée au ciel, ce sont les saints de la grande tribulation et aussi les juifs qui se convertissent pendant la grande tribulation. Il y a une autre bête. Cette bête était montée de la mer, l'antéchrist. Maintenant, il y a une autre bête. Verset 11, je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et elle parlait comme un dragon. Elle exerce tout le pouvoir de la première bête en sa présence et elle fait que la terre et ses habitants se prosternent devant la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. À chaque fois, lorsqu'il est question de l'antéchrist, il est question de cette blessure mortelle à la tête et au bras qui a été guérie. Et cette bête qui monte de la terre, c'est aussi ce qu'on appelle le faux prophète, qui va être comme un prêtre pour le culte de l'antéchrist. Entre l'antéchrist, le faux prophète et Satan, on a une espèce de trinité démoniaque qui remplace le Christ, le Saint-Esprit et le Père. On voit ce faux prophète, lisons verset 13, « Elle opère de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduit les habitants de la terre par les signes qu'il lui fut donné d'opérer devant la bête, en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a survécu. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et fasse mettre à mort tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête. Elle fait que tous, les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves, reçoivent une marque sur la main droite, sur le front, et que nul ne puisse acheter ni vendre le nom ou le nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme, et son chiffre est 666. Chiffre qui a fait couler beaucoup d'encre, qui continue à en faire couler beaucoup. Ce qui est important de réaliser, souvent on dit « Ah oui, maintenant c'est les cartes de crédit ». C'est vrai qu'il va falloir utiliser un codage quelque part pour pouvoir faire du commerce, acheter ou vendre. Mais ce qui est terrible, c'est que c'est le chiffre du nom de l'antéchrist. C'est pas seulement la BNP ou Visa, c'est un nom particulier. L'agneau, il est racheté, chapitre 14. On voit les jugements divins. Verset 14. Plutôt chapitre 14, verset 1. Voici l'agneau debout sur la montagne de Sion avec 844 000 personnes qui avaient son nom. Il chante un cantique. Il y a un autre ange, verset 6, qui vole au milieu du ciel, qui annonce aux habitants de la terre l'évangile éternel. Et puis là, il est question d'un autre ange qui dit qu'elle est tombée Babylone, la grande. Babylone, il va en être question un peu plus loin, ça représente le système commercial du monde et aussi le système religieux du monde de la fin des temps. Entre-temps, il va y avoir les sept coupes. de la colère de Dieu. C'est au chapitre 15, ça commence, et verset 2 du chapitre 16, il commence à répandre la fureur de Dieu dans les sept coupes. Le premier partit et versa sa coupe sur la terre. Un ulcère malin et douloureux atteignit les hommes qui avaient la marque de la bête et qui se prosternaient devant son image. Le second versa sa coupe dans la mer, une troisième dans les fleuves et les océans qui devinrent du sang. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Les hommes furent brûlés par une chaleur torride. Toujours ils ne se repentent pas, verset 9 du chapitre 16. Le cinquième verse sa coupe sur le trône de la bête. Son royaume est obscurci. Les hommes souffrent atrocement, mais ils blasphèment Dieu. Le sixième verse sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Encore une fois, en sixième position, il y a toujours l'Euphrate qui revient. Et ça va préparer la voie au roi qui vient de l'Orient. Souvent, on pense que ce sera peut-être une invasion de peuples de l'Asie qui viendront à la fameuse bataille d'Armageddon. Le septième verset 17 versa sa coupe dans l'air, qui est contrôlé par le prince de l'air, c'est-à-dire Satan. Et il sortit du sanctuaire une voix forte qui venait du trône et disait « C'en est fait ». Les villes des nations furent soumises et Babylone est prête à tomber. Alors Babylone est comparée aussi à une femme assise sur une bête écarlate, verset 3 du chapitre 17. Encore une fois, elle représente le système politique et commercial de la fin des temps. Et puis il va y avoir aussi une autre Babylone qui va être maudite, c'est la Babylone qui représente la religion œcuménique au sens très large, c'est-à-dire toutes les religions qui sont regroupées pour ne plus rien vouloir dire. Mais ce sera un système qui imposera sa puissance religieuse et spirituelle à la fin des temps. Babylone, ça peut être la ville de Babylone qui était tombée mais qui n'avait pas encore été détruite. Ça peut être aussi une grande ville, symbole de commerce mondial comme New York. Ça peut être aussi, à l'époque certains pensaient que c'était la ville de Rome, un nom de code pour la ville de Rome. Mais ça représente en fait toutes les valeurs du monde, de l'argent, du commerce, de la richesse. Et puis, au verset 19, on va avoir ce qu'on appelle les louanges dans le ciel et les noces de l'agneau. L'agneau va épouser l'Église. Verset 11 du chapitre 19, « Je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux sont une flamme de feu. Sur sa tête se trouvent plusieurs diadèmes. Il porte un nom écrit que nul ne connaît sinon lui. » Il est vêtu d'un manteau trempé de sang, son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc et pur. De sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. Il le fera paître avec un sceptre de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Ça, c'est bien sûr le Christ, Jésus-Christ, qui arrive, comparé au faux Christ, ou à l'antéchrist qu'on avait vu sur un cheval blanc au chapitre 5. Ici, il s'agit de... Au chapitre 5, c'est ça... Pardon, chapitre 6. Là, c'est le vrai, c'est le fidèle, c'est le véritable. Et il y a toute une description qui correspond au chapitre 1 de l'Apocalypse, qui reprend des éléments de Daniel 7. Et il s'agit du Fils de Dieu, il s'agit de Jésus-Christ lui-même, roi des rois et seigneur des seigneurs. C'est là qu'il arrive pour établir son règne de 1000 ans, chapitre 20, verset 1. « Je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il y a un règne sur la terre pendant 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, qu'il ferma et scella au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Là, il y a un règne de 1000 ans qui est établi, mais à la fin, Satan est encore libéré, et on va voir que il va encore attirer des gens dans le péché. Il va sortir séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Mais il va y avoir une victoire finale. Verset 10, le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et des soufres où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Verset 11 à 15, c'est ce qu'on appelle le jugement dernier. Je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis devant sa face s'enfuit la terre et le ciel, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. La mer donna les morts qui s'y trouvaient, la mort et le séjour des morts donnèrent des morts qui s'y trouvaient, et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Les croyances qui ont mis leur foi en Christ avant la grande tribulation, eux ont déjà été enlevés aux cieux. On a vu dans 2 Corinthiens que leurs œuvres allaient être jugées pour les différentes récompenses qu'ils recevraient. On a vu au chapitre 4 ou 5 que ces récompenses, ces couronnes, on les remet aux pieds de l'agneau devant le trône de Dieu, parce qu'on est tellement indigne qu'en fait ces récompenses, c'est pas quelque chose qu'on porte toujours dans le ciel en disant « moi j'ai été plus digne que vous ». Et là il est question de tous les morts, et encore une fois on regarde si leur nom est inscrit dans le livre de vie, et si le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, alors ils sont jetés dans l'étang de feu qui est réservé à Satan, au faux prophète et à la bête. Et si on s'obstine à suivre Satan et à rejeter Dieu, il est normal qu'on finisse là où va finir Satan, qui est cet étang de feu. C'est la seconde mort, parce que c'est une mort éternelle, c'est une séparation avec Dieu pour toujours. Encore une fois, la dernière fois, on avait dit, si vous êtes né une fois, vous mourrez deux fois. Si vous êtes né deux fois, vous ne mourrez qu'une fois. Né deux fois, c'est de naître d'abord physiquement et spirituellement lorsqu'on vient à Christ. Et la mort, la première mort, c'est la mort physique, à moins qu'on ne meure, qu'on ne soit là quand ces événements de la fin arrivent. Mais il y a d'abord la mort physique. Et si on n'a pas reçu le Seigneur, à ce moment-là, il y a cette mort éternelle, cette deuxième mort. Et donc, si vous naissez une fois, vous mourrez deux fois. Si vous naissez deux fois, vous ne mourrez qu'une fois. Ça, c'est encore sur la terre, le règne de 1000 ans. Et puis, il y a les nouveaux cieux et la nouvelle terre. On arrive au chapitre 21. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Désolé pour ceux qui aiment faire du surf, faire la pêche. Mais je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes ». Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre. Cela, c'est la seconde mort. Il s'ensuit une description de la nouvelle Jérusalem, qui en fait, si on regarde bien, a une forme cubique, et seulement un espace de... C'est comme un... un cube de 1500 km de côté, 1200 stades. Et il y a toute une description de cette nouvelle Jérusalem, encore en employant des termes de pierres précieuses, à partir du verset 18. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses, toute une mise de pierres précieuses. Je n'y vis pas de temple, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a ni besoin du soleil ni de la lune pour y briller, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Il n'entrera rien de souillé ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie et de l'agneau. Finalement, le dernier chapitre de la Bible, verset 22, « Il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve se trouve l'arbre de la vie, qui produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, c'est-à-dire de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom sur leur front. La nuit ne sera plus, ils n'auront plus de récolte. » Disons, grandiose, difficile à imaginer, à concevoir. Et pourtant, verset 6, il me dit, « Ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à serviteurs ce qu'il s'est un peu romancé. » C'est des choses réelles qui vont se passer, et ça doit arriver bientôt. Le mot « bientôt », là, c'est aussi le mot qui veut dire qu'une fois que ça va commencer, tout va s'enchaîner très rapidement. « Voici, je viens bientôt, celui heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit « garde-toi de le faire ». Jean est ému, il y a un ange, et l'ange lui dit « non, n'adore que Dieu ». Puis il me dit, verset 10, « Ne ferme pas d'un seau les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. » Verset 12, « Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et dans les chiens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » L'esprit et l'épouse disent « viens », que celui qui entend dise « viens », que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je l'atteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, Dieu ajoutera à son sort les plaies décrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera de sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « oui, je viens bientôt. Amen ». Bien Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus. Voler le mariage, les noces de l'agneau, c'est Jésus qui épouse l'Église, qui lui est présentée comme une épouse pure et chaste. Quelque part, je crois que le mariage et la différence entre homme et femme et le mariage, nous est donné comme un exemple de. Pour nous faire comprendre ce que pourra être la communion avec Dieu pour les siècles des siècles. C'est la plus grande relation humaine, ça c'est une toute petite illustration de la communion éternelle avec Dieu dans un monde splendide. Et encore une fois, c'est pas un monde fantasmagorique, ce sont des paroles certaines et vraies. Voilà, on a survolé très très rapidement. Vous avez peut-être beaucoup de questions. On a fait une étude sur ce livre. Et je pense que c'est disponible sur Internet. Vous pouvez, si vous avez ADSL, vous pouvez écouter les sermons sur toute l'Apocalypse, chapitre par chapitre ou demi-chapitre par chapitre.